Ben cinéma, Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, le communautarisme sexuel au cinéma, les transgenres. Bienvenue à tous et à toutes sur Esprit Occitanie. On avait évoqué déjà la question de l'homosexualité au cinéma. Aujourd'hui, un sujet extrêmement délicat. En effet, un sujet sur les transgenres est quand même difficile à présenter parce qu'il peut soulever des questions épidermiques. Mes propos seront parfois une question et pas des affirmations. Une analyse peut être discutée. Est-ce qu'il faut être politiquement correct ou pas? Il n'y a pas d'unanimité sur la notion des transgenres, mais on en dira quelques mots avant de passer à certains films. Alors, on partira de deux films qui ont une approche opposée. Le premier film a été présenté au Festival de Cannes 2024 par Jacques Audiard, c'est Emilia Pérez. Alors Jacques Audiard a eu la Palme d'Or en 2015 pour Dipan, alors que le film n'était pas extraordinaire. Par contre, clairement, il méritait la Palme d'Or avec Emilia Pérez. C'est un film qui est absolument original, avec un dosage entre le film policier, le film dramatique, la comédie musicale, ce qui semble être un mélange impossible, et pourtant on trouve un équilibre à l'intérieur du film. Donc le sujet, pour résumer, c'est un trafiquant de drogue de haut niveau qui décide de devenir une femme. Alors il va subir les opérations et il devient donc transsexuel. Alors la seule personne au courant, c'est une avocate. Elle va se charger de toutes les questions matérielles. Elle va se charger de toutes les questions juridiques. Alors Emilia veut garder le contact avec ses enfants. Elle va se faire passer pour sa tante. Et tout se passe très bien. La tante est très proche des enfants. Elle est proche de leur mère. Mais une tante ne peut pas décider comme une mère. Du coup, quand celle-ci prend des décisions qui ne plaisent pas à la tante, il y a un ton dramatique qui est pris par le film et on débouche sur une violence qui marque donc la fin du film. Alors le film a eu un prix d'interprétation collectif pour ses quatre interprètes, donc ce n'est pas une Palme d'Or, mais un prix d'interprétation collectif, c'est rare, dont les quatre vedettes, ce sont Selena Gomez, Joey Saldana qui fait un rôle important, Adriana Paz et Carla Sofia Gascón. Alors qu'est-ce qui est intéressant pour Carla Sofia Gascón, je crois qu'il faut dire Gascón, c'est que c'est véritablement une transsexuelle. Donc elle joue ce rôle, elle joue une transsexuelle et c'est ce qui peut être parfois important pour ceux qui défendent cette cause-là. La transsexuelle est jouée par une transsexuelle. L'autre film, c'est Lola Pater de Nadir Moknesh en 2017. Là, c'est un jeune homme qui a perdu sa mère. Il veut retrouver son père. Et donc, il se lance à la recherche de ce père. Et il va trouver face à une femme, Fanny Ardant, qui est en réalité son père devenu un transsexuel. Donc, les rapports entre les deux personnages sont étudiés. Comment cette révélation peut-elle aboutir ? Quelles conséquences peut-elle avoir? Alors, quand je dis qu'il y a une opposition entre les deux, c'est une différence de budget, bien sûr, une distribution plus limitée, une audience restreinte, c'est incontestable. Mais ce qui a été mis en avant par certains, c'est que dans le film Emilia Pérez, Carla Sofia Gascón est une véritable transsexuelle, alors que Fanny Ardant ne l'est pas. Et est-ce que cela peut constituer un problème? Est-ce qu'un acteur ou une actrice peut tout jouer? Alors, au contraire, faut-il que seul un transsexuel ou une transsexuelle peut jouer ce type de rôle? Donc, question délicate, avant de le développer et de traiter du cinéma ensuite, on va écouter la musique d'Emilia Pérez.
Cuando, quién y cómo pasó, para contarles el final a los que él amó, para que todos. todos sus amigos lo puedan llorar.
Para saber dónde los malos la escondieron.
Para grabar ya una fecha. Aquí estoy. Para hablar del color de su cara. Aquí estoy.
Aguantarme la mirada en el espejo, para criar hoy a mis hijos con dinero limpio, para que haya una vida antes y otra después, para aprender a calcular que uno y dos son tres, para limpiar mi piel de tatuajes. Aquí estoy, para ayudar con mis errores. Estoy.
Aquí estoy.
Aquí estoy.
Aquí.
Aquí estoy.
Para hacer reaparecer a los desaparecidos. Para que el hijo y la madre estén de nuevo juntos. Para mirar la pesadilla cara a cara. Para que haya en el fondo fuerza y esperanza.
Je vais essayer de ne pas être trop long sur, en quelque sorte, l'historique de ces questions délicates du genre et de l'orientation sexuelle. Ce qu'on peut dire, c'est que ces questions sont apparues depuis environ une quarantaine d'années. Antérieurement, disons jusqu'aux années 60, la question ne se posait pas. On relève effectivement des cas exceptionnels de transsexualisme dans la première moitié du XXe, et un film portera sur ce sujet d'ailleurs. Mais on peut considérer que... la possibilité existe réellement depuis les années 60. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que transgenre ou orientation sexuelle n'étaient pas écartés jusque-là, ils étaient ignorés. Les termes apparaissent à partir des années 80, du côté plutôt des anglo-saxons, avant d'être transportés sur la France. Historiquement, on peut quand même rappeler qu'il y avait le cas des eunuques, et aussi, on l'oublie parfois, les castrats. Les castrats étaient ces artistes qui chantaient, notamment sous l'Ancien Régime, et leur chant était réputé particulièrement beau, donc parce qu'ils avaient été castrés, selon l'expression établie, castrat. Alors la distinction a commencé à reposer sur quatre éléments, LGBT, donc je n'insiste pas, et puis on a évolué, progressivement on est passé à LGBTTQQIAAP ou QQ2SAA, donc le problème était de déterminer s'il y avait des conséquences importantes, notamment sur les deux T, transsexuel, transgenre. On a considéré que l'état civil devait ou pas être modifié, ça a été un élément important, pour rester uniquement sur les abréviations, sans développer queer, questioning, excusez-moi l'accent anglais, intersex, asexual, asexual, alice, pansexuel, donc diverses situations, queer, personnes qui ne se retrouvent pas sous une lettre du sigle, d'autres personnes qui se cherchent encore, questioning, intersexe, les deux caractéristiques du sexe, asexuel, pas d'attirance pour qui que ce soit, et on a à peu près tout développé, du moins les principaux, avec aussi ceux qui prétendent avoir un genre neutre, et ce genre neutre reviendrait à ne se rattacher ni au sexe masculin ni au sexe féminin. Et celui qui détient le pouvoir en dehors du législateur, c'est-à-dire le juge, a toujours refusé le sexe neutre. Il veut l'un ou l'autre sexe et pas un sexe neutre. Alors, on a aussi créé depuis quelques années le terme kink, qui parle de sexualité inhabituelle par rapport à un comportement, c'est le terme utilisé, sexualité vanille. Et il y a aussi le terme mogai qui est introduit, toujours le sigle anglais, qui viserait les orientations sexuelles marginales, les identités de genre et l'intersexe. Donc les questions de définition sont délicates à donner. Il y avait aussi, à partir des années 50, certains cabarets, le plus connu étant celui de Michou, où des chanteuses apparaissaient en réalité des hommes qui se transformaient en chanteuses. On parlait de travestis. Le critique méprisant disait Travelot, et on a parlé, là aussi à partir des années 80, de transformistes. Donc tout cela sont des éléments qui sont importants parce qu'ils sous-tendent, quel que soit le mode artistique, notamment le cinéma. Est-ce qu'il faut distinguer un transsexuel et un transgenre? Alors habituellement, ils le sont. Le transsexuel a subi une opération, le transgenre non. Mais on a considéré qu'avec le changement d'identité d'état civil pour le transgenre, les deux termes pouvaient se fondre. Je précise uniquement pour le transgenre l'important en France de la loi du 18 novembre 2016 qui déclare que toute personne majeure peut entraîner une différence relative au sexe sur son état civil à condition qu'il y ait une présentation publique appartenant au sexe indiqué, qu'elle soit connue de son entourage familial sous ce sexe-là, qu'elle a obtenu un changement de prénom. Donc, problème de définition, je passe assez vite pour ne pas perdre de temps. On a l'illustration du transgenre dans divers domaines, que ce soit le domaine du théâtre, le domaine du cinéma, et le domaine aussi de la télévision. Alors la télévision, je ne l'évoquerai pas, ça serait trop long. Je fais allusion simplement à Orange is the New Black, où l'actrice Laverne Cox incarne Sophia Burset, qui est une transgenre. Donc voilà pour la rappel en quelque sorte de quelques éléments délicats qui peuvent apparaître. Et on va écouter, je dirais par avance, la musique de Pink Flamingos, parce qu'elle va illustrer celui qui est le grand ancêtre ou la grande ancêtre qui est divine. D'abord Pink Flamingos. Alors ces dernières années, il y a eu aussi des films sur les trans qui sont en nombre important, mais je veux le distinguer clairement, toujours par rapport à la question du travestissement, de Tootsie ou de Madame Doubtfire ou d'autres films de ce type. Il est clairement question d'un homme qui se fait passer pour une femme et qui reste un hétérosexuel. Donc pas de transgenre ici. C'est uniquement une façade. Alors, le grand ancêtre, c'est Divine. Divine va exploser dans les films de John Waters. Alors, John Waters, c'est le pape du mauvais goût, c'est le pape du trash avant la lettre. Et il fait jouer dans ses films Divine, qui est l'ancêtre du travesti, du transgenre, et qui va illustrer dans ses rôles ce que John Waters veut présenter de choquant et de trash. Pour préciser, c'est un film où ne joue pas Divine et qui s'appelle Polyester en 1981. C'est le seul film en odorama. C'est-à-dire que vous rentrez dans la salle, on vous donne une petite plaquette et vous devez gratter suivant la lettre ou plutôt le nombre qui s'écrit sur l'écran pour obtenir une odeur qui peut être tout à fait agréable ou au contraire particulièrement immonde. Donc, John Waters, c'est vraiment fin années 60, début années 70 principalement, le pape de ce que j'appelais le mauvais goût, on ne peut pas utiliser d'autres termes. Alors, dans Pink Flamingos en 1972, il y a du fétichisme, il y a du voyeurisme. Dans Femelle Trouble en 1976, on peut dire que c'est totalement déjanté. On a Divine qui joue le rôle d'une jeune fille qui est amoureuse d'un homme, mais on a Divine qui joue les deux rôles et qui, à un moment donné, va coucher avec elle-même ou coucher avec lui-même. Donc, Divine, pour être considérée comme un transgenre, elle a vraiment inauguré ce mauvais goût absolu. Je ne sais pas si ces films seraient appréciés aujourd'hui où on a une approche beaucoup plus policée, beaucoup plus politiquement correcte. Ces films de John Waters ne respectent rien et c'est leur intérêt. Je reviens à la question que je posais tout à l'heure. La nature de celui ou de celle qui joue un transsexuel ou un transgenre. Parfois, les rôles transsexuels et transgenres sont interprétés par des comédiens hétérosexuels. Parfois, non. Alors, cette seconde possibilité est critiquée par le milieu transgenre. Pourquoi ? Parce qu'elle considère, il considère qu'il y a une minorité stigmatisée par les moyens de s'approprier ses propres représentations. Les personnages trans sont encore joués par des hétérosexuels et donc on a une perpétuation du cliché de la femme trans qui serait un homme déguisé. On dit aussi cela cause un sous-emploi pour les acteurs trans au cinéma. Bon, difficulté ici, faut-il ou faut-il pas ? J'allais dire, on peut raisonner par l'absurde et là faire un peu preuve de provocation. Dans certains films, il y a des rôles d'handicapés. Et des comédiens classiques comme Leonardo DiCaprio, Gilbert Grape, comme Daniel Day-Lewis, Myles Foot, comme Javier Bardem, Marlon Dentro, comme Dustin Hoffman dans Iron Man, vont jouer ces rôles. Alors, ce n'est pas bien sûr un problème identique, c'est une situation totalement différente, mais la question peut se poser, si un acteur non handicapé peut jouer un rôle d'handicapé, est-ce qu'un acteur hétérosexuel ne pourrait pas jouer un rôle de transgenre ? Et c'est toute la difficulté, parce qu'il y a quand même un nombre limité de films qui portent le sujet, même si c'est développé depuis quelques années. Alors, il y a quand même, il faut le dire, une stigmatisation du transgenre dans certains films, et dans quelques films à succès. Donc, je vais en citer un en particulier, et ce film, c'est Pulsion. Dans Pulsion, nous allons écouter la musique.
I'm not a juvenile delinquent.
No, no.
Paradise,
I know.
pour passer donc d'une discussion sur la représentation du transgenre au cinéma, est-ce que ce doit être joué par un acteur transgenre ? Effectivement, j'étais un petit peu provocant dans la manière dont je le traitais, mais il y a, et ça c'est incontestable, tout le monde sera d'accord avec moi, une stigmatisation du transgenre dans un cinéma classique. Alors j'ai pris Pulsion de Brian De Palma en 1980, parce qu'on a dans ce cas une présence d'un personnage qui est transgenre, et qui apparaît de manière extrêmement violente et totalement critiquable dans la mesure dont sa présentation est négative. Alors on pourrait citer un second film qui, là aussi, stigmatise le transgenre, c'est Le Silence des Agneaux. Et Le Silence des Agneaux a eu un énorme succès. Quel est le sujet ? Il y a la recherche par Jodie Foster d'un criminel. On ne sait pas trop de quelle manière il agit et pourquoi. Et Anthony Hopkins, qui joue Hannibal, va l'orienter, va l'aider. Et on va progressivement constater qu'il s'agit d'un individu qu'il va tuer des femmes pour récupérer une partie de leur corps afin de s'en faire un costume. Alors, le personnage est complètement noirci. On rejette l'idée de transgenre en disant, voilà, c'est une violence, on est déguisé en femme, ça relève de la psychiatrie et d'un contrôle policier. Donc, effectivement, là, on a, je dirais presque logiquement, une levée de bouclier contre ce film par cette représentation du transgenre. Alors, si on vient à une époque plus récente, il y a des comédiens hétérosexuels qui vont jouer des rôles de transgenre. Par exemple, Hilary Swank dans Boys Don't Cry. Et on a donc un rôle de transgenre qui est joué par cette actrice. Et beaucoup considèrent que c'est une œuvre transphobe parce qu'elle va montrer une dimension de violence. Et cela va présenter en partie le personnage comme négatif. Je reviendrai tout à l'heure sur le Danish Girl, parce que c'est un film, je dirais, charnière ou important, où là aussi, le personnage transgenre est joué par Eddie Redmayne, qui est un homme. Pour Fanny Ardant, je n'insiste pas, hein, Alma Pater qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc le problème, c'est toujours cette question, peut-on ou ne peut-on pas ? Et dans le cas de Scarlett Johansson, elle voulait jouer un transgenre, mais elle a été tellement critique qu'elle a jeté l'éponge et qu'elle ne l'a pas joué, en fait. Pour un autre film, Une femme fantastique, en 2017, on a une actrice transgenre qui joue un garçon devenu une femme, Daniel Vega. Donc le débat est difficile à clore. Encore une fois, peut-on, ne peut-on pas, quelle solution adopter ? Je pose les questions et je dirais c'est à vous d'y répondre, je n'ai pas moi-même de réponse particulière. Alors nous allons arriver à un film important qui est The Danish Girl. The Danish Girl, on va écouter la musique.
Thank you.
Alors, je redémarre sur un film important qui est The Danish Girl, qui est un biopic sur Lily Elbe. Elle est connue comme la première femme transgenre. Donc, le biopic est important et peut toucher l'ensemble de la communauté transgenre. Mais là encore, problème, c'est Eddie Redmayne qui joue le rôle. Donc, un homme qui va jouer le rôle d'une transgenre. C'est toujours la même discussion, toujours le même débat. Et le film montre effectivement le fait que la mort arrive et ça pourrait être considéré comme négatif. Bon, c'est un film important parce qu'il touche à cette question historique, mais qui peut là encore faire débat. Alors, film aussi important, je ne vais pas vous dire à chaque fois que c'est important, j'en cite quelques-uns, c'est vraiment un choix totalement arbitraire, j'aurais dû vous le préciser, totalement arbitraire, Tomboy de Cécile Sciamma. Alors là, c'est une enfant d'une dizaine d'années qui se fait passer pour un garçon. Alors le problème, elle va essayer de rendre son apparence identique à celle d'un garçon, ce qui ne pose pas trop de problèmes pour la poitrine, mais qui pose des problèmes pour le bas du corps. Et elle va essayer de faire croire qu'elle est un garçon, mais cela ne marchera pas jusqu'au bout. Mais il y a quand même une forme d'espoir dans la fin du film. Alors je cite un autre film parce qu'il est d'un réalisateur qui s'appelle Sean Baker, qui a eu la Palme d'Or 2024, qui s'appelle Anora. C'est un film sorti en 2015 où on suit des prostituées afro-américaines transgenres. Donc le problème, c'est la délinquance. Une d'entre elles sort de prison. Elle va avoir une découverte sur une tromperie qui a été faite. Bon, tout cela, c'est un film qui est quand même assez, je dirais, violent psychologiquement. Alors, un film asiatique, pour prendre cela au hasard, c'est Midnight Swan, en 2020. Là encore, un homme devenu femme qui est en cours de transition et danseur dans une boîte de nuit. Alors, danseur, c'est un thème qui revient souvent dans les films de fiction, les films documentaires, cette question. Alors, on a un autre film qui s'appelle Monica, en 2022. Et c'est une femme transgenre qui va retourner vers son origine, vers sa ville natale, avec les problèmes familiaux que ça peut entraîner au niveau des rapports de la maladie et ce genre de possibilités. Un film pakistanais, Joyland, en 2022, qui sera bien sûr interdit par le gouvernement parce qu'on se trouve face à une femme transgenre qui va trouver un travail de danseur, là aussi, toujours ce que je soulignais tout à l'heure. Donc, des films différents, alors je passe sur certains que j'avais voulu relever, et on peut citer quand même dans Barbie, Ari Neff, femme transgenre, qui va jouer un rôle. Donc c'est un film qui est quand même un blockbuster. Bon, on a un certain nombre de films, et j'ai cité tout à l'heure Tomboy, donc on va écouter la musique de Tomboy. We'll be right back. Bon, je passe sur un certain nombre de films de fiction que j'avais prévu d'évoquer. Il y a beaucoup de matière dans ce domaine. Je finirai par deux films documentaires. Un film documentaire qui s'appelle Paris is Burning et on décrit un groupe qui va rencontrer une drag queen, je vais y arriver, et le documentaire va naître de cette approche. La réalisatrice sera, je dirais, conduite à découverte cela, conduite à découvrir cela, et finira par illustrer par un documentaire. Autre ou second film documentaire, La Belle de Gaza en 2024, c'est sur la transidentité en Israël. Alors, problème qui n'est pas évident, avec l'examen de plusieurs femmes transgenres, parfois prostituées, c'est ce qui existait dans d'autres films, avec des vies qui sont souvent difficiles, parfois tragiques. Donc, ces femmes vont montrer tous les aspects des difficultés qui peuvent exister. Je terminerai cette approche, encore une fois, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, pas de solutions, passage parfois politiquement incorrect, mais dans le but d'interroger, pas d'affirmer. Et donc, je terminerai par les sœurs Wachowski. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de réalisateurs devenus réalisatrices. C'est un cas unique dans l'histoire du cinéma. Ce sont les réalisateurs de Matrix qui vont évoluer vers le transgenre. Donc chacun, à son tour, va devenir transgenre. C'est particulièrement étonnant parce qu'on a en quelque sorte ici le cinéma qui rejoint la fiction et cette transformation qui fait de réalisateurs des réalisatrices. Voilà pour ces éléments parfois difficiles à traiter parce que complexes. Et donc, il y aura normalement, avec l'évolution, beaucoup de films sur des transgenres, avec des transgenres, et parfois peut-être avec des acteurs qui ne le sont pas. Encore une fois, l'opposition est difficile. C'était Cinéma, Cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique Grégor. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que celle, ou plutôt de ceux de toutes les autres, sur le site de la station Esprit Occitanie ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à tous et à toutes.